Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, heureux de vous savoir présent pour cette destination bonheur où nous emprunterons cette semaine les sentiers du dépaysement et de l'imaginaire. Au gré du temps, notre invité nous a entraînés dans des univers variés, riches d'émotions et en y mettant tout son talent, sa passion et aussi sa capacité de travail. Au petit écran, nous l'aurons vu dans plusieurs téléromans, Grand-papa, Cormoran ou Les moineaux et les pinsons, pour n'en citer que quelques-uns. Au grand écran, on la retrouve dans plusieurs productions. Vous vous souvenez peut-être de la Manon d'Il était une fois dans l'Est, en 1974, ou d'Hélène Le Sage dans La Grande Séduction. Mais c'est au théâtre qu'on peut apprécier l'immensité de son talent, particulièrement comme interprète presque mythique des pièces de Michel Tremblay, et plus récemment dans un rôle extraordinaire, presque conçu pour elle, celui de Mamie Rose, dans Oscar et La Dame en Rose, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, dont elle a signé la mise en scène. Un auteur à découvrir avec elle aujourd'hui. Alors quel plaisir que d'accueillir Madame Rita Lafontaine. Bonjour Madame Lafontaine.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Le théâtre, effectivement, c'est beaucoup votre vie.
Oui, c'est vrai. J'ai commencé avec le théâtre. Et même professionnellement, après la création des Belles-Sœurs en 1968, il a fallu sept ans avant que je commence à faire des émissions à la télévision.
On parle de théâtre, on parle beaucoup, bien sûr, de celui de Tremblay, de Michel Tremblay. Les Belles-Sœurs, il y en a eu plein d'autres. À toi pour toujours, ma Marie-Lou, bonjour là, bonjour, etc. Je disais, interprète presque mythique, c'est un peu vrai.
Oh, vous savez, vu de l'extérieur, peut-être que les gens peuvent parler d'interprète mythique, mais enfin, pour moi, c'est... Ça manque un petit peu de simplicité de parler de cette façon-là.
Mais disons, qu'est-ce qui vous rejoint dans le théâtre de Tremblay?
En fait, au début, lorsque j'ai connu Tremblay, j'avais beaucoup, beaucoup lu de théâtre au préalable. Et puis, j'aime les textes, j'aime les beaux textes. Et tout de suite, en lisant... La première fois où j'ai lu les textes de Tremblay, j'ai été éblouie et je me suis dit « c'est un grand auteur ». Au début, on était une petite poignée de comédiens, comédiennes, metteurs en scène qui avions de l'admiration pour Tremblay. Maintenant, il est traduit en 30 langues à travers le monde. Il est joué, c'est bien la preuve que... Partout au monde, les gens se reconnaissent. C'est universel. Tous les êtres humains sont pareils aussi, quelque part.
Quand vous parlez d'universalité des textes de Michel Tremblay, quelle est la corde sensible qui, effectivement, réussit à rejoindre la planète? Parce que au départ, on s'en souvient, ce n'était pas très évident. Il y a eu beaucoup de critiques lorsque la première pièce des Belles-Sœurs a été mise à l'affiche. On critiquait la langue utilisée, on critiquait aussi cette misère qui était un peu exacerbée, etc. À votre avis, qu'est-ce qui fait cette force d'universalité dont vous parliez?
C'est assez... Tous les sentiments qui sont dans l'âme humaine sont semblables, que ce soit à l'autre bout du monde ou ici. Lorsqu'on est allé jouer les Belles-Sœurs à Paris en 1973, on a été montré du doigt ici, toutes les interprètes des Belles-Sœurs. On nous disait que c'était honteux d'aller porter le joual en France et qu'on... Il y a personne qui nous comprendrait et tout ça, mais c'était... Nous, on était tellement convaincus de la force de cette pièce-là et de la force de la production. Et effectivement, on a joué durant 3 semaines et on a eu des critiques dithyrambiques. Toutes les critiques étaient dithyrambiques, à vrai dire. Même le critique du Monde avait écrit « Les belles-sœurs sont en joual, comme Andromaque est en alexandrin, parce qu'à une œuvre forte, il faut une langue forte. Mm-hmm. » Alors, bien entendu... ça dit tout ce que ça doit dire de cette langue-là, justement. Les Français ont très bien compris ce langage-là. C'est pas le langage qui était une barrière. Il n'y en avait pas de barrière, en fait. Et lorsqu'on est allé jouer en 1979 en France, à Paris, entre autres, mais partout en France, en Suisse, en Belgique et partout... les gens ont très bien compris. Il y en a pas de barrière avec ce langage-là.
Et c'est intéressant d'évoquer tout cela parce que nous allons parler aussi d'un autre auteur après la prochaine pièce de musique, parce qu'aujourd'hui, vous nous avez apporté beaucoup de musique de Mozart. Mozart nous accompagnera. Nous allons amorcer cette émission avec l'adagio d'une sonate qui est peut-être moins connue que la sonate en la de Mozart, c'est celle en fa. La sonate en la, c'est la marche turque. Cette fois, écoutons l'adagio qu'on considère un peu comme la sonate dissonante et qui va bien positionner la suite des choses. Alicia de la Rocha au piano.
Thank you.
Aujourd'hui, à Destination Bonheur, nous accueillons Mme Rita Lafontaine. Nous parlions de Michel Tremblay. Il y a un autre auteur que vous nous avez peut-être fait découvrir au théâtre, c'est Éric-Emmanuel Schmitt, qui est de plus en plus connu, qui lui aussi est universel, parce que ses livres sont publiés à travers le monde. J'ai eu personnellement le plaisir de vous voir interpréter Mamie Rose dans cette pièce d'Oscar et de la Dame en rose. C'est l'histoire d'un enfant qui meurt, ou qui ne meurt pas, mais qui a 10 ans et qui va mourir. Et qui, grâce à l'aide d'une bénévole, va peut-être découvrir le sens de la vie, le dialogue avec Dieu. Si vous pouviez nous en glisser quelques mots.
Oui, en fait, à première vue, il me semblait que le personnage de Mamie Rose était celui qui primait. Dans cette pièce-là. En fait, ce n'est pas une pièce, c'est un conte philosophique. Et d'ailleurs, il y avait... le petit garçon parle en argot et la dame Rose parle un bon français. Et on a fait une petite adaptation. J'ai travaillé avec François Flamand à la mise en scène et on a fait une petite adaptation. Et le biais par lequel je l'ai abordé, finalement, c'était que c'est Mamie Rose qui découvre les lettres d'Oscar après sa mort. Et le spectacle commence comme ceci, c'est-à-dire Mamie Rose découvre les lettres et en les lisant, elle devient Oscar. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule interprète. Et c'était fascinant de décoder tout ça pour en arriver... c'est comme si Mamie Rose devenait le porte-voix d'Oscar. Et bien entendu, Oscar, au début, est fâché. Il est frustré... malheureux, inquiet, en colère contre ses parents, qu'il trouve lâche devant l'éventualité de sa mort. Et c'est Mamie Rose, effectivement, qui avec ses échanges avec lui, fait que il finit par écrire des lettres à Dieu, comme elle le lui suggère. Et il finit par être... dans un autre état d'esprit.
Oui, parce que chaque jour devient une année, donc une journée qui est vécue pleinement, presque de manière excessive.
Oui, ça c'est un tour de force de la part d'Éric-Emmanuel Schmitt d'avoir intégré cette légende, ce que Mamie Rose présente à Oscar comme une légende, que à partir d'aujourd'hui, il va vivre chaque journée comme si c'était 10 ans. Alors, il passe de 10 ans à 20 ans, à 30 ans, à 40, 50, ainsi de suite.
Un auteur qui vous a donc touché profondément.
Ah oui, c'est une... et pas seulement moi, mais le public est très touché par ces personnages-là, particulièrement le personnage d'Oscar. Tout le monde est touché par la mort, par la maladie, la souffrance, soit que les gens en vivent ça pour eux-mêmes ou bien chez leurs amis, leurs parents,
et leurs propres enfants,
bien sûr, bien sûr.
Nous parlions de Schmitt. Vous nous faites un grand cadeau aujourd'hui car vous allez faire lecture de quelques passages de son dernier livre qui s'appelle...
Ma vie avec Mozart.
Schmitt a écrit de courtes missives au jeune prodige qu'est Mozart, qui lui répond sous forme de pièces musicales. Il lui parle de tous les moments de sa vie, même les plus difficiles, comme celui de la perte de la femme qu'il aimait. Et à chaque fois, Mozart est là pour l'aider à surmonter ses peines. Le dialogue entre l'auteur et le compositeur est donc une réflexion sur la magie de la musique, de l'écriture, de ce que vous évoquiez, la vie, la mort. Un livre qui se dévore en quelques heures et dont vous nous ferez lecture de quelques passages. Le premier parle de cette femme qui se mit à chanter.
La femme se mit à chanter. Et là... Subitement, tout bascula. Soudain, la femme était devenue belle. De son étroite bouche sortait une voix claire, lumineuse, qui emplissait l'immense théâtre au fauteuil vide, montant jusqu'aux galeries obscures, planant au-dessus de nous, aérienne, portée par un souffle inépuisable. Immobile, rayonnante, la cantatrice laissait son chant vibrer dans son corps muté sous nos yeux en instrument de chair, ce qui donnait à son timbre cette rondeur, ce miel, c'était sa poitrine palpitante, ses épaules douces, ses joues molles, son flanc superbe, sa taille large, matricielle, qui devait fournir des enfants aussi magnifiques que ses sons. Le temps s'était arrêté.
À Destination Bonheur, aujourd'hui, nous recevons Mme Rita Lafontaine. Le temps s'était arrêté. Pour Mozart, le temps avait pu commencer assez rapidement. On parlait du jeune prodige. Je vais vous raconter une anecdote qui était rapportée par un ami de son père, Léopold, Johann Schachtner. Une des plus incroyables anecdotes, paraît-il, de ce jeune prodige. Lui et le père de Mozart revinrent de l'église et surprirent le jeune Wolfgang en train de griffonner sur un papier. « Que fais-tu là ?» lui demande son père. « J'écris un concerto pour clavecin, » répond Wolfgang, qui n'a que 8 ans. Léopold s'empare du papier, qui est couvert de taches d'encre. Les deux hommes rient. Et puis Léopold, son père, examine de plus près la partition. Puis, soudain, des larmes de joie et d'émerveillement coulent sur ses yeux. « Regardez, Herr Schachtner, c'est très correctement écrit, mais c'est injouable, c'est beaucoup trop difficile, » lui dit-il. Wolfgang se retourne et dit « C'est pour cela que c'est un concerto. Il faut l'étudier avant de jouer. » Ça vous ressemble peut-être un peu, parce que vous devez travailler très fort pour faire le métier que vous faites. Il faut étudier avant de jouer.
Oui, étudier, pas seulement mémoriser, mais étudier, oui, c'est... Je me plais à dire que c'est même une de mes spécialités, l'étude des textes. J'accorde une grande importance aux textes. J'ai le plus grand respect pour les auteurs. Et chaque mot, chaque virgule, chaque point signifie quelque chose. Et moi, j'aime bien décoder, de toute façon, sous les mots, ce que l'auteur a voulu dire, ce que le personnage veut dire à travers les mots de l'auteur.
Comment se prépare-t-on à s'investir d'un personnage?
Un petit peu comme ce que je disais un peu plus tôt à propos d'Oscar, c'est-à-dire que au début, je voyais pas, dans Oscar et la Dame Rose, je voyais pas... l'auteur avait spécifiquement demandé que ce soit Oscar qu'on voit sur scène et non pas Mamie Rose. C'est-à-dire, c'est entendu qu'on voit la comédienne qui joue, mais c'est Oscar qui est là. Alors ça, c'était un vrai tour de force pour moi d'arriver à Oscar. Mais quand j'avais lu la 4e de couverture, et où l'auteur disait que Mamie Rose, au début, trouve les lettres d'Oscar après sa mort, c'est ce qui a été le début de mon travail. Mamie Rose trouve les lettres. Et là, j'ai débuté avec cette phrase-là.
Mais c'est là le tour de force, parce que moi, je peux vous dire, j'ai vu cette pièce avec mes 3 adolescents qui me disaient avoir vu plus qu'un personnage sur la scène, ouais. D'avoir vu cet Oscar, d'avoir vu cette Mamie Rose. Et donc, je reviens à ma question initiale, c'est presque un tour de force que de pouvoir... se détacher de l'un et de l'autre et de pouvoir s'y investir pour nous faire croire à l'impossible.
Il faut avoir bien travaillé, c'est comme vous disiez un peu plus tôt. Il faut avoir bien étudié. Il faut avoir vraiment intégré ces mots-là qui appartiennent au personnage. Il faut les avoir en quelque sorte digérés et pouvoir les redonner. C'est un travail assez mystérieux, finalement. On ne sait pas quel chemin ça prend. Puis de toute façon, c'est à refaire tous les soirs. C'est pas automatique. Ça dépend du public, ça dépend de l'attention et de l'amour aussi que le public donne.
Et c'est peut-être là tout le génie, comme celui de Mozart qui avait pu écrire une aussi belle musique.
Comment pouvais-tu écrire cette musique légère, aérienne, fluide, aisée, avec un corps qui gémissait, des gencives qui te faisaient souffrir? Plusieurs fois, en lisant des biographies, j'avais constaté que, épuisé par les voyages et l'excès d'activité, tu avais consacré des mois, voire des années, à lutter contre des infections, des problèmes digestifs, des difficultés rénales. Cependant, on ne m'avait pas encore parlé de ta bouche. Me revient en tête une phrase de toi prononcée en ta jeunesse. « Il n'y a pas un jour où je ne pense à la mort. » Cette réflexion, jointe au délabrement de ton palais, voilà qui permet de donner un plus juste poids à ta joie. Loin de venir d'une ignorance, elle est connaissance du malheur, réaction au calvaire. Elle fleurit sur du purin, une joie décidée, volontaire, un exercice de joie. Thank you.
écoutez Destination Bonheur. Avec nous aujourd'hui, plusieurs personnages de génie, j'allais dire. Madame Rita Lafontaine, Wolfgang Mozart et Éric Emmanuel Schmidt.
Oh, c'est trop d'honneur. Je suis bien loin derrière.
Votre art est un art difficile?
Difficile, mais en même temps tellement enthousiasmant. C'est un don de soi. Mais de toute façon, je pense que tout le monde qui a la chance d'être en vie et d'avoir suffisamment de santé pour parler, s'exprimer, comprendre, écouter, tout le monde a le devoir d'être passionné dans la vie et de donner le meilleur de lui-même.
Êtes de celles-là.
Ben, je pense qu'on est plusieurs. On est plusieurs dans le monde. Vous en êtes un. Le monsieur, le technicien qui est ici aussi en est un. Je pense que ils sont rares, les paresseux, les ignorants, ceux qui préfèrent être ignorants que d'apprendre. Il y en a, mais il y a une bonne proportion de passionnés, puis c'est heureux.
Diriez-vous que la passion est votre fil conducteur?
Oui, je pense bien, oui. C'est aussi la joie, le bonheur d'être en vie, d'être... C'est une grande, grande chance d'être en vie et de pouvoir communiquer, comme en ce moment, communiquer avec le public. C'est extraordinaire pour moi. C'est ça, la communion des saints. C'est vrai, c'est pas seulement dans l'irréel. La communion des saints, pour moi, c'est...
Des âmes qui se réunissent.
Oui, exactement.
Qui communient entre elles.
C'est ça.
Curieusement, la vie emprunte parfois, nous fait emprunter des chemins un peu sinueux. Je crois que dans votre tendre enfance, vous souhaitiez peut-être embrasser une autre carrière, celle de médecin. Et la vie vous a amené ailleurs, heureusement pour nous d'ailleurs. Peut-être et sans aucun doute auriez-vous été un médecin extraordinaire, mais nous avons eu le plaisir de profiter de ce talent de communication que vous évoquez.
Oui, ben enfin, je pense que j'ai en quelque sorte bouclé la boucle, c'est-à-dire que je pense que j'aurais pas été une bonne chirurgienne ou... une bonne urgentologue, par exemple. J'aurais été trop bouleversée par les souffrances physiques. Mais je préfère penser, mais à ce moment-là, je le savais pas, mais je préfère penser que je suis comme une sorte de médecin des âmes. Enfin...
Une psychiatre, quoi!
psychologue, oui, enfin... Oui. Essayer de comprendre les diverses motivations des êtres humains.
Et pour vous, ça, c'est important.
Oui, oui, bien sûr. Parce que quand on comprend les motivations, ben, on peut aller plus facilement vers le pardon, le non-jugement. Si on juge, forcément, il peut y avoir des choses assez laides qui sortent des jugements qu'on peut porter.
Et Mozart a réussi, par sa musique, à faire vibrer nos âmes. Il réussit encore de nos jours à le faire.
Ce n'est plus un instrument que j'entends. C'est la vibration d'une âme. Une voix d'enfant domine les bruits et les fracas du monde. C'est elle. La femme que j'ai aimée me revient, avec son visage tendre, ses yeux qui brillent. Elle me regarde avec affection. Nous nous retrouvons enfin. Le chant du violon tendu, ouvert, tel le plus beau de ses sourires, continue à s'élargir et à monter, s'élever, se hisser sans cesse.
Vous écoutez Destination Bonheur, Armand Dubois au microphone, en compagnie de Mme Rita Lafontaine. Que de chemin parcouru depuis votre première prestation? C'était Antigone de Jean Anouilh, je crois.
Oui, en effet, à Trois-Rivières.
À Trois-Rivières, parce que vous êtes native de la Mauricie, de Trois-Rivières.
C'est ça, oui.
Votre père, vous ne l'avez pas connu non plus?
Je l'ai connu un peu, jusqu'à un an et demi, mais J'ai quelques petits souvenirs fugaces, mais c'est assez difficile d'affirmer quoi que ce soit.
Est-ce que l'absence d'un père marque une vie?
Pour une fille, je pense que c'est essentiel, l'absence du père. Mais, mon Dieu, il y a des drames tellement grands dans le monde. Des pères absents pour d'autres raisons que la mort.
Mais avez-vous cherché la présence du père tout au long de votre vie?
Oui, mais j'ai été choyée, à vrai dire. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait la Légion de Marie à Trois-Rivières quand j'avais 15 ans. Puis on avait un aumônier qui était d'une grande bonté, d'une grande intelligence et d'une grande générosité. Et puis on peut dire qu'il a joué ce rôle paternel. Puis aussi le deuxième mari de ma mère qui a été vraiment mon père, qui a agi comme un père aussi.
Et l'affection, vous en avez reçu quand même beaucoup au cours de votre vie, celle du public.
Ah oui, absolument. Oui, c'est parce que je crois à ça, les liens. Bon, comme en ce moment, lorsque je parle aux gens, les liens sont là, les liens du cœur sont là. Pas besoin de se voir ou de se téléphoner ou tout ça, c'est les gens sont là, sont à l'écoute. Et puis, les sentiments passent de moi à eux et d'eux à moi.
Et dans le métier que vous exercez, c'est peut-être le bonheur de ce métier, c'est qu'on peut effectivement recevoir beaucoup d'affection d'un très grand nombre de personnes. Il y a beaucoup de gens qui exercent parfois des métiers de façon exemplaire, mais qui n'ont pas cette possibilité de recevoir autant d'affection.
Oui, mais c'est vrai que j'en reçois, mais c'est un échange. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme là-dedans. Il ne s'agirait pas de recevoir et de ne rien donner en retour. En fait, c'est un... Quand les gens me parlent sur la rue, ils me disent « On vous connaît, vous ne connaissez pas. » Moi, je dis « Moi, je vous connais avec mon cœur. » Parce que dites-vous bien que quand je suis à la télévision ou à la radio et que vous m'entendez, dites-vous bien que je suis là avec vous et que... Je vous envoie mon amour et mon affection.
Votre jeu est un peu une flûte enchantée.
Cher Mozart, quelle magnifique idée tu as eue. Créer un duo d'amour qui ne soit pas un duo d'amants. L'homme et la femme qui chantent ensemble ne sont pas destinés l'un à l'autre. Chacun manifeste son aspiration à aimer. Pourtant, chacun se tournera bientôt ailleurs. Pamina s'offrira à Tamino, Papageno à Papagena. Cependant, Pamina et Papageno joignent leur voix pour célébrer l'amour. Un autre opéra contient-il cela? Je ne le crois pas. Il y a là quelque chose de pur, d'évangélique. L'amour célébré comme une valeur sacrée. L'offrande. Voilà pourquoi deux enfants pouvaient le chanter en s'engageant avec ferveur. L'homme vante l'amour, la femme aussi. Toutefois, aucun n'attend rien de son partenaire. Pas de stratégie.
Lettre de Mozart à son père. Papa chéri, je ne puis écrire en vers. Je ne suis pas poète. Je ne puis distribuer les phrases assez artistement pour leur faire produire des ombres et des lumières. Je ne suis pas peintre. Je ne puis non plus exprimer par des signes et une pantomime mes sentiments et mes pensées. Je ne suis pas danseur. Mais je le puis par les sons. Je suis musicien. Nous recevons aujourd'hui Mme Rita Lafontaine. Et vous, vous êtes comédienne avant tout?
Non, je suis une femme avant tout. Je suis une femme, une mère, une amoureuse. Et le métier de comédienne est magnifique. C'est une façon extraordinaire. C'est une chance inouïe que j'ai eue de connaître Michel Tremblay d'abord, mais pas seulement lui. Bien sûr, j'ai joué plusieurs autres auteurs, mais André Brassard, ce grand metteur en scène génial qui voit toujours plus loin, plus grand. Alors, oui, j'ai eu une chance inouïe de les rencontrer, d'explorer la nature humaine avec eux.
Vous dites femme et mère également. Votre fille a été un peu l'enfant de la balle parce qu'elle a suivi beaucoup la carrière que vous avez menée.
Oui, elle a été une vraie enfant de la balle. Elle était très petite lorsque je l'ai amenée à des répétitions et en studio. Et ensuite, elle a joué avec moi dans l'émission Grand-papa. Elle jouait ma propre fille.
Et ça, c'était le rôle de Martine, si ma mémoire
oui,
est bonne.
Martine, oui, Martine, oui. Et... alors, oui, elle aime cette vie-là, elle l'a aimée. C'était pas de tout repos, ni pour elle, ni pour moi, de toute façon. Mais ça fait rien. Elle a été heureuse, et moi, j'ai été heureuse d'avoir cette fille-là. Et puis maintenant, j'ai un petit-fils aussi, alors je suis choyée.
On vous dit, paraît-il que vous êtes très enveloppante, et je n'en doute, nous n'en doutons nullement. Vous préparez aussi la relève, vous donnez des cours.
Mm-hmm.
Parfois, quand on parle de relève, on peut imaginer de très jeunes gens, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas.
J'avais fait une boutade dans la publicité, je disais, pour les 16 à 96 ans. Et j'ai eu plusieurs personnes, il y en avait de tous les âges, de 16 ans à 83 ans. Il y a une dame formidable que j'ai beaucoup admirée qui a suivi les ateliers avec nous cet été et puis qui a participé aux représentations publiques. Et c'est une femme très digne, très cultivée, très intelligente. C'était vraiment très agréable de travailler avec elle, entre autres, mais de travailler avec tous les élèves aussi.
C'est très enrichissant, je présume, de côtoyer ces personnes qui veulent, évidemment, un jour peut-être porter le message à travers d'autres personnages et jouer également.
Mmh. Ce qui est toujours extraordinaire, c'est de découvrir la passion. Cette passion-là que j'avais quand j'étais plus jeune, puis que j'ai conservée, qui s'est transformée, qui est pas la même. Il y a comme l'expérience fait que il y a des choses dont on est plus sûr, mais souvent quand on est jeune comme ça, il y a une certaine naïveté qui vient avec cette passion-là. Mais peu importe, j'essaie de bien les guider.
Est-ce que votre métier vous permet de mieux traverser certaines périodes difficiles de la vie?
Oui. Dans un sens, vous savez, on dit toujours, lorsqu'on est sur scène, on oublie tous nos petits soucis, nos petites douleurs physiques, ou peu importe. Dans un sens, oui. Ce que j'ai énormément aimé dans ce métier-là et que j'aime encore, c'est le travail en équipe, c'est-à-dire la certitude. Ce qui est très, très beau, c'est la certitude que quand on commence à jouer au théâtre, chaque soir, tout le monde se retrouve. Il n'y a aucune raison qui empêche jamais un comédien de se présenter au théâtre. Il faut être moribond pour ne pas se présenter. Et je n'ai vu ça qu'une seule fois. Et c'était Denise Morel qui ne s'était pas présentée, qui était décédée. Alors, c'est en 40 ans de carrière, on ne voit jamais ça. Un comédien ne pas se présenter. Alors, ça, c'est très beau. C'est comme un sentiment de clan et de... Puis on s'appuie les uns sur les autres pour donner le meilleur spectacle possible. Je me dis toujours, les gens sont là, se sont déplacés, ils ont payé leurs billets, ils se sont organisés pour être là. Alors, on leur doit le respect, on doit du respect à ces gens-là et faire vraiment le meilleur travail possible.
En parlant de Denise Morel, vous évoquez évidemment cette fin tragique de Madame Morel. Mm-hmm. Parfois la nuit tombe et le vent frémit.
La nuit tombe, le vent frémit. Deux femmes et un homme adressent des signes à un bateau qui s'éloigne dans la baie de Naples. Que disent-ils? Que douce soit la brise, que l'onde soit paisible et que chaque élément réponde à nos désirs. Bon et heureux voyage. En 3 minutes, le temps que la barque ne figure plus qu'un point à l'horizon, se dégage la quintessence de l'adieu. Adieu à quoi? Adieu aux amoureux qui partent à la guerre. Adieu au bonheur présent. Adieu au rêve d'une union parfaite. Peut-être adieu à l'innocence et à la sincérité. Car désormais, durant la pièce, pièges et supercheries vont se succéder. Peu importe la nature de l'adieu, quelque chose d'essentiel est en train de nous quitter. Thank you.
Nous sommes rendus au terme de cette rencontre avec Madame Rita Lafontaine. Est-ce que l'adieu dans votre vie est quelque chose de pénible? Est-ce que vous êtes, par exemple, habité par la question de votre finitude, de la mort?
J'y pense tous les jours. En fait, j'espère vivre très longtemps parce que j'aime la vie. Tous les jours, je rends grâce pour tout ce qui m'est prêté. Je dis souvent en boutade, dire qu'il va falloir mourir après avoir appris tout ça. C'est un peu frustrant de mourir, mais je crois à la vie éternelle, je crois à la survie de l'âme. Je l'espère de tout mon cœur et je parle tous les jours aux personnes que j'ai aimées qui sont décédées. Simplement des mots d'amour, comme ça, en passant, rien de...
Et vous sentez la communion lorsque vous leur adressez la parole intérieurement?
Oui. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et même davantage, même, parce que des fois, on a des réponses troublantes, hein, lorsqu'on pose des questions précises. Quelquefois, j'ai des réponses troublantes. C'est assez étonnant et ça fait chaud au cœur en même temps. Mais je prie pour la paix des personnes décédées, et pas seulement pour les personnes que j'ai connues et aimées, mais tous les drames qui arrivent à peu près chaque jour, dont on entend parler aux nouvelles. J'envoie des prières dans l'univers pour les familles, pour les gens qui souffrent. C'est important. C'est dans ce sens-là, la communication aussi.
Et en terminant, pour vous, le sens véritable de la vie, je pense que les lectures dont vous nous avez fait part et qui sont tirées du livre d'Éric Emmanuel Schmitt traduisent beaucoup la vie. Ce contact avec Mozart est un contact aussi avec la vie.
Mm-hmm. La vie, c'est l'amour. On dit « Dieu est amour ». Et puis je pense que à la fin de notre vie, je pense que c'est de ça dont on est imprégné, l'amour. Mais le « aimez-vous les uns les autres » aussi, si ça existait à plus grande échelle, ça irait sans doute mieux dans le monde.
Mais heureusement que vous êtes là pour partager cet amour à travers votre art, à travers également cette générosité de nous avoir fait part de cette lecture aujourd'hui et de votre compagnie. On vous remercie infiniment, Madame Lafontaine, d'être avec nous, d'avoir été avec nous. On vous souhaite longue vie et on espère que vous serez encore très présente sur les scènes du Québec pour qu'on puisse admirer votre talent.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Mes meilleurs vœux et mes meilleurs sentiments au public qui nous écoute.
Merci encore une fois. C'était donc Destination Bonheur en présence de Mme Rita Lafontaine. La semaine prochaine, dans le cadre de l'émission Au gré du temps, nous recevrons M. Léopold Lauzon. Au plaisir, cette émission était réalisée sous la supervision d'Alain Primo. À la prochaine.